Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 74, Daf Ayin Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Afalgav de Ika de Damiala Chashivla. Tous ces travaux qui étaient nécessaires à la fabrication du Mishkan, quoi qu'ils ont d'autres travaux qui leur ressemblent, on les compte comme des travaux à part. Évidemment, il faut que ces travaux soient faits à d'autres stades de la fabrication et qu'ils soient quand même un peu différents de l'autre. Comme on verra au Daf Ayiné Amoud Bet, que si les travaux ressemblent trop et en fait font partie du même travail, là on ne dira pas cela. Mais ici, puisque dans la série des travaux qui sont nécessaires à la fabrication du pain, il y a à des stades différents trois travaux qui se ressemblent, du moment qu'on avait besoin de les faire pour la fabrication des plantes pour les teintures au Mishkan, on les compte comme des travaux à part. La Gemara demande, mais s'il en est ainsi, Velirchad Nami Kotesh, on devrait aussi compter un autre travail qui ressemble à un travail qui est cité dans notre Mishnah et qui était nécessaire à la fabrication du Mishkan. Ce travail, c'est Kotesh, celui qui pile les grains de blé dans un mortier pour enlever leur épicarpe, comme un travail à part. Puisque le Tana ne l'a pas compté comme un travail à part, on voit que puisqu'il ressemble à Dash, qui est de sortir les grains de blé de leur enveloppe, il n'est pas compté comme un travail à part, et de même, on ne devrait pas compter ces trois travaux comme des travaux séparés. Amar Abaye, Abaye répond, non, je te dirais toujours qu'effectivement, les travaux qui se ressemblent, du moment qu'ils étaient nécessaires à la fabrication du Mishkan, doivent être comptés comme des travaux à part. Mais la raison pour laquelle celui qui pile des grains de blé dans un mortier n'est pas considéré comme un travail à part, quoique c'était nécessaire à la construction du Mishkan, est « Sheken ani ochel pito belok tisha » puisqu'un pauvre mange son pain sans piler le blé dans un mortier pour enlever l'épicarpe. Dans notre Mishnah sont cités les travaux nécessaires à la fabrication du pain, et comme ça ne fait pas partie pour les pauvres, le Tana ne l'a pas cité. Néanmoins, puisque c'est un travail nécessaire aux plantes pour la teinture du Mishkan, c'est un travail de base à part. C'est en tout cas l'avis de Rashi. Tosfot et d'autres commentaires discutent et disent que ce travail n'est pas du tout considéré comme un travail de base, puisqu'il n'est pas nécessaire pour les pauvres. En tout cas, d'après Rashi, c'est un travail de base, mais il n'est pas cité dans notre Mishnah, puisqu'il ne fait pas partie des travaux de base nécessaires à la fabrication du pain. Rava Amar Hamani Rabbi. Rava a dit, la raison pour laquelle le Tana de notre Mishnah ne compte pas Kotesh, piler du grain dans un mortier comme un travail de base à part, c'est parce que le Tana de notre Mishnah suit l'avis de Rabbi. De Amar, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, qui a dit, en déduisant des mots du verset Eile Hadvarim, que les travaux de base qui sont interdits le Shabbat sont au nombre de 39 uniquement. Vi Chashiv Kotesh, Aviele Arbaim. Et si on avait aussi compté ce travail-là de piler du grain dans un mortier comme un travail de base à part, on aurait eu au total 40 travaux de base. C'est pourquoi il n'a pas compté ce travail à part, et ce travail reste inclus dans le travail de battre le blé, qui consiste aussi à séparer l'enveloppe de ce qui est à l'intérieur. La Gemara demande, Velipuk Khada Mehanar Ulayil Kotesh. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre de côté ce travail de piler du grain dans un mortier? On devrait plutôt exclure un des travaux cités plus haut, qui est de vanner, trier et de tamiser. On devrait dire qu'un de ces travaux n'est pas considéré comme un travail à part. Au lieu de les considérer, tous ces travaux qui consistent à séparer le bon du mauvais, comme des travaux à part, et en tout, on a trois travaux qui se ressemblent de ce type-là, on devrait à la place faire entrer Kotesh, qui est un deuxième travail qui ressemble au travail de battre du blé. Ça ferait qu'on aurait deux travaux qui se ressemblent par rapport à trier et deux travaux qui se ressemblent par rapport à séparer l'écorce du grain. pourquoi est-ce qu'on a choisi d'avoir trois travaux qui se ressemblent, d'une part, et d'autre part, un seul travail. La Gemara dit, « Ela marvarta kide abaye », c'est pourquoi il est plus logique de répondre comme abaye, que la raison pour laquelle kotesh n'est pas considéré comme un travail à part, et puisque par rapport à la fabrication du pain, il n'a pas assez d'importance, puisque les pauvres peuvent s'en passer. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta, Hayu lefanav mine ochlin. S'il avait devant lui des aliments, borer veochel, borer umaniar. Il a le droit de trier pour manger aussitôt, il a le droit de manger pour poser. Velo ivror, et il n'a pas le droit de trier. Vim birer chayav chatat. Et s'il a trié, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat. Alors on a vu trois choses contradictoires apparemment dans cette braïta. Premièrement, qu'on a le droit de trier pour manger aussitôt et on a le droit de trier pour poser. D'autre part, qu'on n'a pas le droit de trier. Et encore, que s'il a trié, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, c'est-à-dire que c'est une transgression de horaïta. La Gemara demande, Maïka Amar, que veut dire cette braïta? Amar Oula, Harika Amar. Oula dit la première interprétation sur cinq interprétations que la Gemara va dire. Voici ce que le Tana voulait dire. Borer veochel le bo bayom ou borer umaniach le bo bayom. Il a le droit de trier pour manger le jour même et il a le droit de trier pour poser et que ce soit mangé le jour même. Ou le machar lo yivror vim birer chayav chatat. Mais pour le lendemain, il n'a pas le droit de trier et s'il a trié, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat. C'est-à-dire que d'après Oula, il y a deux parties dans cette braïta. La première partie, si c'est pour le jour même, c'est permis. Et si c'est pour le lendemain, c'est la deuxième partie. Là, c'est interdit et il y a même une obligation d'apporter un sacrifice de khatat. C'est-à-dire qu'on passe directement à la transgression de horaïta. Matkifla Rafrizda. Là-dessus, Rafrizda pose une forte question. Vechi moutar le efot le bo bayom. Vechi moutar le vachel le bo bayom. Si tu dis qu'ici il s'agit de trier de façon à ce qu'il puisse y avoir une transgression de horaïta, est-ce que du moment qu'on le fait pour le jour même, c'est permis? Mais d'après cela, est-ce qu'on a le droit de cuire au four si c'est pour le jour même? Et est-ce qu'on a le droit de cuire dans une casserole si c'est pour être consommé le jour même? Ce qui est une transgression de horaïta n'est pas permise puisque c'est pour être consommé le jour même. Et là, Amar Rav Chisda. C'est pourquoi Rav Chisda donne une deuxième interprétation de cette braïta. Borer veochel pachot mikeshiur, borer umaniar pachot mikeshiur. On a le droit de trier pour manger si il trie moins que la quantité minimale pour avoir l'obligation d'apporter un sacrifice qui est la taille d'une figue sèche. Et on a le droit de trier et de poser si c'est une quantité inférieure à la taille d'une figue sèche. Ukeshiur lo ivror, vim birer chayav chatat. Et si c'est la quantité d'une figue sèche, il n'a pas le droit de trier, et s'il a trié, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat. Là aussi, on passe directement de l'autorisation de trier si c'est en dessous de cette quantité, à la transgression de horaïta si on a trié plus que cela. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef va poser une forte question sur cette interprétation-là aussi. Puisqu'on a dit que s'il y a la quantité d'une figue sèche, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat. C'est donc que cette façon de trier est une interdiction de horaïta. Dans ce cas, comment se fait-il qu'en dessous de la quantité d'une figue sèche, c'est permis de le faire? V'chim mutar le'efot pachot mikeshiur, est-ce qu'on aurait aussi le droit de cuire en dessous de la quantité d'une figue sèche, quoiqu'il n'y a pas l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat si on a cuit moins que la quantité d'une figue sèche, du moment que cette interdiction est de horaïta, on n'a pas le droit de la faire en quantité inférieure à cette quantité-là. Toutes les interdictions de la Torah sont interdites même si on les fait en plus petite quantité que la mesure nécessaire pour les peines de mort, karet, flagellation ou l'obligation d'apporter un sacrifice. Et ici aussi, du moment que l'interdiction est une interdiction de horaïta, on n'aurait pas le droit de le faire en quantité inférieure à la quantité d'une figue sèche. Et là, Amar Rav Yosef, c'est pourquoi Rav Yosef a donné une troisième interprétation de la Braïta. Lorsqu'il est dit au début de la Braïta qu'on a le droit de trier pour manger aussitôt et on a le droit de trier pour poser. Ça veut dire Borer ve'ochel beyad, borer umaniar beyad. Il a le droit de trier pour manger aussitôt s'il trie à la main. Il a le droit de manger pour poser s'il trie à la main. Du moment qu'il trie à la main, ça ne ressemble pas du tout à la façon normale de trier. Et c'est pourquoi c'est permis même de Rabbanan. Par contre, la deuxième partie de la Braïta est qu'on n'a pas le droit de trier. Alors ça c'est Bekanon ou Vetamchouy lo yivror, avec l'ustensile qui est nommé canon. C'est un récipient de bois large à l'arrière et étroit à l'avant, dont on se servait en général pour les pièces de monnaie. On peut aussi trier les légumes secs en les mettant dans la partie large et en secouant l'objet. Puisque les légumes secs sont ronds, ils glisseront vers l'avant et tomberont, en laissant les déchets qui ne sont pas ronds à l'intérieur. Alors, on n'a pas le droit de trier avec cet ustensile qui est nommé canon, ni avec un plateau. Quoique ce n'est pas la façon normale de trier, comme on verra par la suite quelle est la façon normale de trier, mais puisque ça ressemble du moment qu'on se sert d'un ustensile, c'est tout de même interdit de Rabbanan. Vim birer patur avalasur, entre parenthèses, si il a trié de cette façon-là, il est exempté d'apporter un sacrifice, quoique c'est interdit de Rabbanan. Ça c'est donc la deuxième partie de la Braïta. Maintenant, il y a une troisième partie de la Braïta d'après Rav Yosef. Ubenapa ubekvara lo yivror vim birer chayav chatat. Par contre, avec un tamis et un crible, il n'a pas le droit de trier, et s'il a trié, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat. Ça, c'est la façon normale de trier, et c'est pour cela qu'il y a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, une transgression de Braïta si on l'a fait. On voit donc, d'après Rav Yosef, trois parties dans cette Braïta. Tout dépend de quels moyens on s'est servi pour trier. C'est de là que ça dépend si c'est permis délibérément, ou si c'est seulement interdit de Rabbanan, ou alors si c'est interdit de Horaïta. Matkifla Rav Amnouna. Rav Amnouna pose sur cette interprétation une forte question. Mide kanon vetamchui ktani, est-ce que dans la Braïta, on a cité cet objet de bois kanon et ce plateau? Est-ce que le Tana a fait une distinction entre les différents moyens employés pour trier? Et là, Amar Rav Amnouna, c'est pourquoi Rav Amnouna donne une quatrième interprétation à cette braïta. Borer ve'ochel, ochel mitoch absolet. Borer umaniar, ochel mitoch absolet. Lorsqu'il est dit au début de la braïta qu'on a le droit de trier pour manger aussitôt, il s'agit de trier la nourriture des déchets. Et lorsqu'il est dit qu'on a le droit de trier pour poser, c'est lorsqu'on trie la nourriture des déchets. Ce n'est pas du tout une façon habituelle de trier. Et l'interdiction de trier n'est que si on trie les déchets de la nourriture, le mauvais du bon. Mais le bon du mauvais, c'est permis. Psolet mitoch ochel lo yivror vim birer chayav chatat. La deuxième partie de la braïta est que les déchets de la nourriture, on n'a pas le droit de trier. Et si on a trié, on a l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat. Il n'y a que deux parties de la Braïta d'après cette interprétation de Rav Amnouna. Matkifla Abaye. Abaye a posé une forte question. Mide ochel mitor psolet ktani. Est-ce que dans la Braïta, il a été cité une différence entre celui qui trie la nourriture des déchets ou l'inverse? Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye a donné une cinquième interprétation à cette Braïta. Le début de la Braïta qui dit que c'est autorisé, borer ve'ochel le altar ou borer umaniar le altar. Il s'agit de celui qui trie pour manger vraiment aussitôt ou celui qui trie pour poser et que ce soit mangé vraiment aussitôt. Ce n'est pas habituel de trier pour manger aussitôt et c'est pourquoi c'est permis de le faire pendant Shabbat. Ou le bobayom lo yivror, la suite de la Braïta est que si c'est pour être mangé même dans la même journée, mais plus tard dans la journée, on n'a pas le droit de trier. Vim birer naase keborer le otsar vechayav chatat. Et s'il a trié pour être mangé plus tard dans la même journée, c'est considéré comme s'il avait trié pour la réserve, ce qui est la façon habituelle de trier, et il a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat. D'après Abaye, il n'y a que deux parties dans cette braïta. La première partie est de trier pour être mangé aussitôt, cela est carrément permis. La deuxième partie est de trier pour manger plus tard dans la journée, cela est interdit de raïta, et il y a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, puisque c'est considéré comme s'il avait trié pour la réserve, qui est la façon tout à fait habituelle de trier. Amroua Rabbanan Kamei de Rava. Les sages ont dit l'interprétation d'Abaye devant Rava. Amar Lehu, Shapir Amar Nachmeni. Rava leur a dit, Abaye qui est nommé Nachmeni a bien expliqué. Hayu Lefanav Shnei Mine Ochlin. S'il avait devant lui deux sortes d'aliments, Ubirer Ve'achal ou Ubirer Ve'iniyar, et qu'il a trié entre ses aliments pour manger aussitôt, ou alors qu'il a trié entre ses aliments pour poser. Ravashi Matni Patour, Ravashi enseignait qu'il est exempté d'apporter un sacrifice, quoique c'est interdit de Rabbanan. Rabbi Irmiya Midifti Matni Chayav, Rabbi Irmiya Midifti enseignait qu'il a l'obligation d'apporter un sacrifice, que c'est la transgression de Horaïta de trier qu'il a fait ici. La Gemara demande, Ravashi Matni Patour, Vehatani Chayav, comment se fait-il que Ravashi enseignait qu'il est exempté d'apporter un sacrifice? Nous avons pourtant vu dans la Braïta citée que s'il trie pour plus tard dans la journée, il a l'obligation d'apporter un sacrifice, que c'est la transgression de Horaïta. Comment se fait-il que Ravashi dit que c'est seulement interdit de Rabbanan, mais qu'il est exempté? Et si Ravashi parle de trier pour manger aussitôt, dans ce cas, il ne devrait pas dire qu'il est exempté, ce qui insinue que c'est quand même interdit de Rabbanan, il devrait carrément dire « moutard », que c'est permis. Alors, il y a une contradiction entre l'enseignement de Ravashi et la Braïta. L'Agmara répond, Lokashia, non, ce n'est pas une question. On dira toujours que Ravashi parle de trier pour manger plus tard dans la journée, mais tout de même, ce n'est qu'interdit de Rabbanan et pas de Horaïta. Pourquoi? Ha bekanon vetamchui, l'enseignement de Ravashi parle de celui qui trie avec l'ustensile cité plus haut qui est large à l'arrière, et étroit à l'avant qui est nommé canon, ou alors avec un plateau. Ce n'est interdit que des Rabbanan puisque ce n'est pas la façon habituelle de trier, mais du moment que c'est avec un ustensile, c'est interdit des Rabbanan. Habenapa ukvara, alors que la Braïta qui a dit que celui qui trie pour manger plus tard dans la journée a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, et c'est une interdiction de Raïta, parle du cas où il a trié avec un tamis ou un crible, et puisque c'est la façon habituelle de trier, il y a une interdiction de Horaïta. Kiata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a raconté. Shabta de Rav Bibi Havae. Ce Shabbat-là était le tour de Rav Bibi de servir les sages. Viklou, Rabbi Ami et Rabbi Assi, et Rabbi Ami et Rabbi Assi sont venus, Rav Bibi allait les servir. Shada Kamayu Kalkala de Pere. Rav Bibi a renversé devant eux un panier de fruits. Les fruits se sont séparés des feuilles et de cette façon chacun pouvait servir en prenant le fruit sans devoir trier les fruits des feuilles. Velo yadana imishum de savar ochel mitor psolet asur. Alors ici Rav Bibi dit, et moi je ne sais pas si la raison pour laquelle il s'est conduit de cette façon est puisque Rav Bibi pensait que de trier la nourriture des déchets, le bon du mauvais, est aussi interdit, imishum ayn yafehu de mechaven, ou alors la raison pour laquelle il s'est conduit de cette façon n'est pas parce qu'il ne voulait pas trier lui-même le bon du mauvais, mais c'était pour être généreux, pour que chacun puisse se servir soi-même directement. Rizkia Amar, Rizkia a dit, Haborer tourmosim mitor psolet shelahen chayav. Celui qui trie des légumes secs qui nécessitent une longue cuisson, ce sont peut-être des lupins. De leurs déchets, de leur écorce après la cuisson, a l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, c'est la transgression de Horaïta, de borer, de trier. La Gemara demande, Lema kasava Chizkia ochel mitor psolet asur, allons-nous dire que Chizkia pense que de trier le bon du mauvais est interdit, puisqu'ici, il sort le lupin de leurs déchets et il dit qu'il a l'obligation d'apporter un sacrifice. L'agma répond « Shani tourmoussim ». Non, ce n'est pas une preuve d'ici qu'il pense comme cela, puisque les lupins sont différents.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Ayin Dalet Amud Bet. Deshalkele Shiva Zimne. On a besoin de les cuire 7 fois. Viloshaklele Misrach. Et si on n'enlève pas la nourriture de l'écorce, la nourriture va s'abîmer. Ou kipsolet mitor orel dami. C'est pour cela que la nourriture est ici considérée comme des déchets, puisqu'elle risque de s'abîmer si on ne la sépare pas de l'écorce. Elle est considérée elle-même comme quelque chose qui va s'abîmer. Et c'est pour cela que c'est considéré comme si on avait séparé les déchets de la nourriture. On a suivi la première interprétation de Rashi. La deuxième interprétation de Rashi est qu'il s'agit de trier les bonnes fèves de lupin, des fèves véreuses et d'autres espèces de lupin moins bonnes. On les trie en versant l'eau entre les cuissons. Ici, même s'il trie le bon du mauvais, du moment que si on laisse les bons lupins sans les recuire, ils s'abîmeront, ils sont considérés comme un déchet par rapport aux autres espèces de qualité inférieure qui sont déjà cuits dès la première cuisson. D'après cette interprétation, au lieu de lire « vi lo shaklele », et si on ne les enlève pas de leur écorce, il faut plutôt lire dans la Gemara « vi lo shalkele », et si on ne les recuit pas, ils s'abîment, contrairement aux autres espèces de qualité inférieure qui ne nécessitent pas de cuisson supplémentaire. Nous avons vu dans la Mishnah « Vehatochen » est celui qui moule le blé. Amar Rav Papa a dit « Hayman de parim silka chayav mishum tochen » Celui qui coupe des blettes en lamelles a l'obligation d'apporter un sacrifice puisqu'il a fait le travail de moudre, puisqu'il réduit quelque chose en petits morceaux, et c'est exactement comme celui qui moule le blé pour en faire de la farine. Amar Rav Menashe, Hayman de Salit Silte, Chayav Mishum Tochen. Rav Menashe a dit, celui qui coupe du menu bois pour faire du feu a l'obligation d'apporter un sacrifice puisqu'il a fait le travail de moudre. Amar Ravashi, Ikapid Amashreta. Ravashi a dit, celui qui coupe ce menu bois, s'il fait très attention à les couper à une certaine taille, qu'il attache de l'importance à la taille du bois, Chayav Mishum Mechater, il a l'obligation d'apporter un sacrifice supplémentaire pour le travail d'avoir découpé comme celui qui découpe le cuir à une taille précise. Chaque fois qu'on découpe quelque chose en faisant attention à une taille précise, il y a ce travail de mechater. Nous avons vu dans la Mishnah « Vehalash vehaofe » et celui qui pétrit et celui qui cuit au four. Nous avons déjà vu qu'en hébreu, il y a une différence entre le mot « ofé » qui veut dire « cuire au four » et le mot « mevachel » qui veut aussi dire « cuire mais dans une casserole ». Dans notre Mishnah, on parle de celui qui cuit le pain au four. Amar Rav Papa, là-dessus Rav Papa a demandé « Shavak tana didan bishul samemanin dehave bimishkan venakat ofé » Comment se fait-il que notre Tana a mis de côté la cuisson dans une casserole ou plutôt dans un chaudron qui était nécessaire pour les plantes de la teinture, qui était nécessaire pour la construction du Mishkan, et il a employé la cuisson au four, qui n'était pas du tout nécessaire à la fabrication du Mishkan. L'Agma répond, Tana Didan Sidora de Pat Nakat, notre Tana a cité la série des travaux nécessaires à la fabrication du pain, et c'est pour cela qu'il a parlé de la cuisson au four, qui est employée pour le pain. Le Ran explique que la raison pour laquelle le Tana a préféré parler de la série des travaux nécessaires à la fabrication du pain que la fabrication de teinture est puisque la fabrication du pain est plus courante que la fabrication de teinture. Amar Ravara Baravavira. Ravara Baravavira a dit « Hayman de Shada Sirta Leatuna » Celui qui a jeté un pieu humide au four pour le faire sécher « Chayav Mishum Mevachel » a l'obligation d'apporter un sacrifice puisqu'il a fait le travail de Mevachel de cuir. L'Agmara demande Pshita, C'est pourtant évident. Rabbi répond, Maoud et Teima, l'ishure manaka michaven. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que du moment que son intention est de durcir le pieu et pas de le cuire, ce n'est pas considéré comme une cuisson. Kamash malan demir par rafi vehadar kamit. C'est là-dessus qu'on nous enseigne que du moment qu'au début il se ramollit, c'est considéré comme une cuisson et seulement après il durcit, il y a aussi ici le travail de cuisson. Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna a dit, Hayman de artar kufra chayav mishum mevachel. Celui qui a fait bouillir, qui a liquéfié du goudron, a l'obligation d'apporter un sacrifice puisqu'il a fait le travail de cuire. La Gemara demande Pshita. C'est évident. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Puisqu'il a fait cuire du goudron, c'est une cuisson. La Gemara répond Maoud et Teima, kivan de hadar veikusha et malo. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Du moment que le goudron, en refroidissant, va se redurcir, il n'y a pas de transformation qui s'est faite par sa cuisson. J'aurais pu penser que ce n'est pas considéré comme le travail de base de cuire. Kamash Malan, Rabba Baravuna nous enseigne qu'il y a ici tout de même ce travail de cuire. Amar Rava. Rava a dit, Ayman de Avat Ravita, celui qui a fabriqué un tonneau de terre cuite pendant Shabbat. Chayav Mishum Sheva Chataot, normalement, il a l'obligation d'apporter 7 sacrifices de Chatat, puisqu'il a fait 7 travaux de base différents. Rachid dit que ce n'est pas l'interdiction de bonnet de construire, puisqu'il n'y a pas de construction dans les objets. Voici la liste des travaux qu'il a effectués. Celui qui fait un travail de terre cuite doit, premièrement, moudre les mottes de terre, ce qui est le travail de Tochen. Deuxièmement, il trie les cailloux, c'est Borer. Troisièmement, il tamise la terre, c'est Meraked. Quatrièmement, il mélange la terre avec de l'eau et la pétrie, c'est Lash. Cinquièmement, il rend lisse l'objet une fois qu'il l'a déjà fabriqué, c'est Memarek, comme celui qui rend lisse la peau. Sixièmement, il allume le four, c'est Mavir. Septièmement, la cuisson, c'est Ofé. Tanoura, celui qui fabrique un four de terre cuite pendant Shabbat, il a dû faire tous les travaux nécessaires à la fabrication du tonneau de terre cuite, mais il y en a en plus. Chayav Mishum Shmoné Chataot, il doit apporter 8 sacrifices. En plus des 7 travaux nécessaires à la fabrication du tonneau de terre cuite, il y en a un autre. Lorsqu'il l'enduit d'argile après la cuisson pour l'épaissir et qu'il soit mieux isolé, c'est considéré comme Maké Bepatige, celui qui donne le dernier coup de marteau sur un objet pour finir un travail. Ici aussi, c'est la finition d'un travail et c'est pourquoi il y a 8 sacrifices nécessaires. Amar Abaye, Abaye a dit, Hayman Davad Khalta, celui qui a fabriqué une ruche de roseau pendant Shabbat, Chayav Achat Esre Chataot, a l'obligation d'apporter 11 sacrifices de Chatat, il y a 11 travaux de base différents. Le premier et le deuxième, c'est lorsqu'il émonde les roseaux et qu'il en a besoin. D'une part, il a fait pousser le roseau lorsqu'il émonde, et cela est le travail de Zoréa. De plus, puisqu'il a besoin des roseaux qu'il a coupés, c'est la récolte Kotser. Troisièmement, lorsqu'il rassemble les roseaux, c'est comme Mehamer, celui qui met en gerbe. Quatrièmement, lorsqu'il les trie, c'est Borer. Cinquièmement, lorsqu'il les rend lisses, c'est Memachek. Sixièmement, lorsqu'il les coupe dans l'épaisseur en 2 ou 3 lamelles, c'est Tochen, comme celui qui moue. Septièmement, lorsqu'il coupe dans la longueur, la taille précise, c'est Mechater. Huitièmement, lorsqu'il dispose les roseaux de la chaîne pour tisser, c'est messar, ça veut dire ourdir. Le neuvième travail est lorsqu'il tisse ou tresse un roseau de trame en haut et en bas, c'est comme osechne bate nirin, celui qui fait passer les fils dans les lisses du métier à tisser pour pouvoir tisser. Dixièmement, lorsqu'il tresse la ruche, c'est considéré comme oreg. Onzièmement, lorsqu'il coupe les roseaux qui dépassent, c'est la finition de l'objet, makeb patish. Vi chayte le poumé, et s'il a cousu autour de l'ouverture de la ruche pour faire un ourlet, un rebord, chayav shosh esre chataot, il a l'obligation d'apporter 13 sacrifices de chatat, puisque en plus il a fait le travail de couture, et celui de faire un nœud pour faire tenir la couture. Nous avons vu dans la Mishnah, Hagodez et Tatsemer ve Amelabno, celui qui tond la laine et celui qui la blanchit. Amar Rabba Barba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Barba Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hatovet Tsemer Shal Gabi Behema Beshabbat, Chayav Shalosh Chataot. Celui qui file la laine sur l'animal pendant Shabbat a l'obligation d'apporter trois sacrifices de Chatat, ces trois travaux de base différents qu'il a fait ici. Achat Mishum Gozez, l'un puisqu'il a tondu, Ve'achat Mishum Menapetz, et le deuxième c'est qu'il a cardé, il a séparé les fibres de l'animal, Ve'achat Mishum Tove, et troisièmement puisqu'il a filé. Rav Kahana Amar, Enderech Ziza Bekar, Ve'enderech Menapetz Bekar, Ve'enderech Tivui Bekar. Rav Kahana dit, ce n'est pas la façon habituelle de tondre, ce n'est pas la façon habituelle de carder, et ce n'est pas la façon habituelle de filer, c'est pourquoi il est exempté, comme tout celui qui a fait un travail de Shabbat de façon inhabituelle. La Gemara demande, velo, est-ce que ce n'est pas la façon habituelle d'agir? Ve'atania mishme de Rabbi Nechemia. Nous avons pourtant appris dans une braïta au nom de Rabbi Nechemia. Shituf be'izim, ve'tavu be'izim. Pour la fabrication des tentures du Mishkan, il lavait le poil des chèvres sur les chèvres et il filait le poil sur les chèvres. Almatvia algabe be'mash matvia. C'est donc que de filer sur l'animal est une façon habituelle de filer et c'est considéré comme un travail interdit le Shabbat. L'Agma répond « Chochma yetera sha'ani ». Une sagesse particulière est différente, c'est-à-dire que pour la fabrication du Mishkan, c'était des femmes Chochmat Lev qui avaient une sagesse particulière, qui étaient capables de filer sur les chèvres, alors que pour les gens ordinaires, c'est une façon inhabituelle d'agir et on est exempté d'après Rav Kahana. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta, « Hatolesh et Akanaf, celui qui arrache une plume d'aile d'un oiseau, Ve'akotement est celui qui coupe l'extrémité pour avoir du duvet pour remplir un oreiller. Ve'amorto est celui qui enlève le duvet de la partie dure de la plume. Chayav shalosh chataot a l'obligation d'apporter trois sacrifices de chatat. Il a fait trois travaux de base différents. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Tolesh chayav mishum gozez. Lorsqu'il arrache la plume, il a fait le travail de tondre. Kotem chayav mishum mechater. Lorsqu'il coupe l'extrémité de la plume, c'est le travail de mechater, comme celui qui découpe le cuir, car il coupe à une taille précise pour faire du duvet pour des oreillers, d'autant plus qu'il se sert de la plume dénudée pour fabriquer des chapeaux, et toutes les plumes doivent avoir exactement la même taille. C'est mechater. Memaret chayav mishum memachek. Lorsqu'il enlève le duvet de la partie dure de la plume, il a fait le travail de Memachek de rendre lisse comme celui qui rend lisse le cuir. Nous avons vu dans la Mishnah Hakosher veHamatir, celui qui fait un nœud et celui qui défait un nœud, ce sont deux travaux de base qui sont interdits le Shabbat. La Gemara demande Kshira beMishkan Hecha Habayi, où est-ce que le travail de faire un nœud était nécessaire à la fabrication du Mishkan? Amar Rava Sheken Koshrin Bietedot Oalim. Rava donne une première explication, puisqu'on avait l'habitude d'attacher les tentures du Mishkan au pieu des tentes lorsqu'on montait le Mishkan. Amarle Abaye, Abaye lui a demandé, Haou kosher almenat leatir ou ces nœuds-là étaient dans l'intention de les défaire lorsqu'on démontait le Mishkan, et tout celui qui fait un nœud avec l'intention de le défaire plus tard est exempté, comme on verra qu'on a d'interdiction de Horaïta que si on fait un nœud permanent. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye a donné une autre explication, Sheken Orgei Yeriot Shenifseka Laen Nima Koshrim Ota, puisque les tisseurs de tenture, s'il y avait un fil qui se rompait, ils devaient l'attacher. Amar le Rava, Rava a répliqué, Tiratsa Kosher Matir Maïka Le Memar. Tu as effectivement bien expliqué pourquoi est-ce que c'était nécessaire de faire des nœuds pour la fabrication du Mishkan. Mais où est-ce que c'était nécessaire de défaire un nœud pour la fabrication du Mishkan? Vichitema deimitramele trechute kitre behade hadade sharichad vekatarchad. Et si tu veux dire que les tisseurs de tenture, s'ils avaient deux fils attachés au même endroit, et ça se voyait, ils étaient obligés de défaire l'un des nœuds et de laisser l'autre attaché. Hashta lifne meler basar vadam enosinken. Si déjà, devant un roi en chair et en os, on ne se conduit pas comme ça, on n'aurait jamais fait un tissu pareil pour lui, puisque c'est moche à l'endroit où ça laisse un trou. Lifne meler malcham lachim akadosh baruch hu osinken. Est-ce que devant le roi des rois, saint béni soit-il, on faisait des tentures pareilles? Il est évident que les tisseurs de tentures faisaient attention qu'il n'y ait pas deux nœuds l'un à côté de l'autre. Et là, Amar Rava veitema Rabbi Ilaï, c'est pourquoi Rava a dit, et certains disent que c'est Rabbi Ilaï qui a dit, Sheken tzadech hilazon koshrin ou matirin, puisque les chasseurs du fameux poisson hilazon qui était nécessaire à la teinture de Trelet devaient attacher et détacher les filets pour les agrandir ou les rapetisser. Nous avons vu dans la Mishnah, Ve'atofer shtei tfirot, et celui qui fait deux points de couture. La Gemara demande, Ve'alokaima, mais pourtant s'il n'y a que deux points de couture, la couture se défait, et tout travail qui ne tient pas n'est pas un travail. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Dehu Shekashran, Rabba Barbachana a répondu au nom de Rabbi Yochanan, c'est seulement dans le cas où il a attaché l'extrémité des fils, et puisque ça tient, c'est un travail de couture. Voilà pour le Daf Ayin Dalet. Shabbat Daf Ayin He. On reprend Daf Ayin Dalet Amud Bet, au bout de la deuxième ligne avant la fin de la page, les deux points. Nous avons vu dans la Mishnah, Hakorea Almenat Litfor, celui qui déchire un tissu dans l'intention de le coudre pour faire une réparation. La Gemara demande, Kriya Bemishkan Mihava, était-il nécessaire de déchirer pour la fabrication du Mishkan? Rabba et Rabbi Zera de Amret Arvayou, Rabba et Rabbi Zera disent tous deux.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.